Il a raison, le docteur Serge Hefez. Alors Serge Hefez, vous savez sans doute pas qui c'est. C'est le responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Si vous ne retenez pas qui il est, ce n'est pas très grave. Ce qui m'a intéressé, ce n'est pas qui il est. D'ailleurs, je ne sais toujours pas beaucoup qui il est, à part ça. Mais c'est ce qu'il a dit dans une interview donnée au journal Le Monde. Il a dit ceci. Les jeunes n'ont pas du tout été préparés psychologiquement aux événements que nous vivons aujourd'hui, car de fait, l'état du monde semble avoir renoué avec ce qu'a été son fonctionnement depuis la nuit des temps. Une succession infernale de guerres, d'attentats, de conflits religieux, de famines, d'épidémies, de catastrophes naturelles. Or, les deux générations précédentes ont vécu, du moins dans nos contrées, une incroyable parenthèse enchantée, une paix durable, une santé insolente, une situation économique satisfaisante, un avenir forcément radieux où les enfants allaient vivre encore mieux que leurs parents. Les individus se sont émancipés et la société a davantage attendu de la jeunesse qu'elle s'épanouisse plutôt qu'elle ne se soumette à l'autorité, à la famille, à la religion, à la défense de la patrie. Il y a encore quelques semaines, quelqu'un me disait avoir du mal avec les récits de guerre dans la Bible. Et cette personne, de conclure elle-même, c'était un autre temps, une autre époque. Et je dois admettre que ces derniers temps, je ne porte plus le même regard sur ces récits. Je les spiritualise moins. Ils me concernent soudainement davantage, au premier degré, au pied de la lettre. Je les sens plus proches. Ils ne me semblent plus être d'un autre temps ou d'une contrée lointaine. Et si je contemple l'histoire du monde dans son ensemble, ces dernières décennies en Occident semblent bien être effectivement une parenthèse enchantée dans un monde ordinairement déchiré. Alors j'espère que cette parenthèse durera encore, mais j'en suis pas sûr. Et ce dont je suis sûr en tout cas, c'est que le monde tel que décrit par la Bible n'est pas celui d'un passé multimillénaire, quelque chose qui se serait passé il y a très longtemps. C'est bien le nôtre, depuis l'entrée du péché dans le monde. C'est le nôtre. Et le docteur Hefez a raison, rien depuis ma naissance ne m'a personnellement préparé à ça. Le réchauffement climatique, dans mon enfance, c'était une lubie d'écolo. Quand ils en parlaient sur les plateaux télé, les gens sérieux et bien habillés ricanaient. Les épidémies, mais je suis né dans le siècle de Pasteur. La guerre, j'en entendais parler. En cours d'histoire, moi je suis de la génération Erasmus, des programmes d'échange européens, de la chute du mur de Berlin. Les relations entre les USA et la Russie, pour moi, c'était le fou rire de Bill Clinton face à Boris Yeltsin en 95, qui faisait suite, d'ailleurs, soit dit en passant, à un accord sur l'extension de l'OTAN et le maintien de la paix en Bosnie. Alors, c'est sans doute assez vrai, je ne suis pas tellement prêt, et peut-être que vous n'êtes pas prêt non plus, si tant est qu'on puisse vraiment l'être. Le texte qu'on va voir ce matin fait partie des textes, je crois, qui peuvent grandement nous être utiles. C'est un texte court, mais qui peut nous être utile dans les temps que nous vivons parce qu'il parle d'insécurité et de radicalité et que ce sont deux réalités qui tendent à se perdre dans un monde en paix, mais avec lesquelles on a un peu plus maille à partir dans un monde en guerre. Ce texte, on le trouve en Matthieu 8, donc dans le Nouveau Testament. Évangile de Matthieu, chapitre 8, et je vais lire les versets 18 à 22. Matthieu 8, 18 à 22. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un scribe, un spécialiste de la loi, s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » « Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Seigneur, nous savons que ta parole est vie. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin qu'elle se fasse chair dans nos propres vies, Seigneur. Nous avons besoin de nous en nourrir et nous te prions pour qu'il en soit ainsi ce matin. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour qu'elles puissent faire l'effet que toi tu escomptes. Amen. Voilà, c'est un texte court. Le contexte de ce petit passage-là, c'est que Jésus vient d'enseigner aux foules, il vient de guérir des malades, et visiblement ça a attiré du monde. La foule s'amasse autour de lui, et il décide de s'éloigner, il veut s'éloigner. Il veut passer sur l'autre rive avec ses disciples. Et c'est là que deux personnes l'interpellent. Le premier, donc, c'est un scribe, c'est un spécialiste de la loi. Celui-là veut suivre Jésus sur l'autre rive, il veut l'accompagner. Et puis le deuxième, lui, est déjà un disciple, il est déjà à la suite de Jésus, mais cette fois-ci, avant de poursuivre sa route, avant d'aller sur l'autre rive, il demande à pouvoir aller enterrer son père. Alors on va méditer simplement sur ces deux rencontres ce matin et on va voir ce qu'elles peuvent nous enseigner d'utile quant aux réalités que nous vivons aujourd'hui, quant à la réalité de ce que représente suivre Jésus. La première chose que Jésus dit, il informe finalement son interlocuteur, il lui dit « Tu veux me suivre, très bien, mais sache que le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Admettons-le, je crois que c'est très loin de nos réalités contemporaines. Nous avons un toit, nous avons un lit, du chauffage, on a l'eau courante, on a une porte trois points pour protéger notre télé, notre chaîne IFI, même nos voitures dorment au chaud dans des garages, une pièce pour elles. On est si bien sédentarisé qu'on oublie souvent, tout le temps peut-être, que nous sommes par nature, nous chrétiens, étrangers et voyageurs sur la terre. Bien des actes fondateurs de notre foi sont des expériences de nomadisme, d'insécurité, au sens en tout cas où le monde conçoit la sécurité. Abraham a dû quitter la demeure de ses ancêtres, il a dû se mettre en route, il ne savait même pas où il partait, il ne savait pas où il allait. Quand il s'est installé, ça a été de relativement courte durée. Bientôt, voilà le peuple en Égypte, où ils vont passer 4 siècles d'esclavage en terre étrangère. Et quand ils sortent de l'Égypte, c'est pour passer 40 ans dans le désert, sous tente, en suivant le Seigneur. Finalement, c'est l'entrée dans la terre promise, mais même là, c'est très instable. Il suffit de lire le livre des juges, des chroniques, des rois. La guerre est présente. Puis à nouveau la déportation, l'exil, l'occupation par des nations étrangères, la Syrie, Babylone, les Perses, l'Empire romain. Le ministère de Jésus lui-même est un ministère itinérant, très localisé, c'est vrai, mais itinérant. Ses disciples vont prêcher de synagogue en synagogue avant de se tourner vers les païens jusqu'en Galatie, en Grèce, à Rome. Dans le livre des Actes, on les voit commencer à prendre l'habitude de se réunir ensemble pour partager le pain et prier. Et c'est en quelque sorte l'ancêtre de nos cultes. Mais même au 1er siècle de notre ère, la vie sous occupation romaine est beaucoup plus précaire que celle que nous connaissons nous-mêmes aujourd'hui. Avec un bémol, quand même, et je crois qu'Étienne vous en parlerait mieux que moi par le biais de son ministère à portes ouvertes, cette précarité, cette insécurité, elle est la réalité de nombreux chrétiens aujourd'hui dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'il en est de nous ? Eh bien, en ce qui nous concerne, il n'est pas rare, il me semble, que nos vies tournent autour du projet de sédentarité par excellence, celui de la maison. La maison. L'aboutissement d'une vie réussie, c'est la maison. La maison avec le bout de terrain, le jardin, le garage. Voilà, la maison. Et quand les travaux de la maison touchent à leur fin, on regarde cette maison et puis on dit « T'as vu, Seigneur, elle n'est pas belle, ma maison. Elle est magnifique, ma maison. » Et je crois que si on tend l'oreille, on va l'entendre nous dire « En vérité, je te le dis, il n'en restera pas pierre sur pierre. » Parce que c'est ça la réalité. Tout passera, tout passera. Et ça m'interpelle d'autant plus, figurez-vous, que je vais vous donner un scoop. On va acheter avec Anna, là, ça y est. On a fait une offre d'achat pour un appartement cette semaine. On va donc être propriétaire, en principe, dans le courant de l'été. J'aurais voulu vous en parler d'abord, j'aurais voulu prendre davantage de temps, mais les choses se sont précipitées parce qu'on a appris que les propriétaires du logement que nous louons actuellement vont le récupérer à l'été. Il a fallu qu'on soit réactif pour ne pas se retrouver coincé. Et donc, voilà, les choses sont parties dans ce sens-là. Et on va se retrouver propriétaire. Mais dans cette aventure-là, bien sûr, on ne doit pas oublier, nous et puis vous aussi, que nous sommes de passage. De passage à Chambéry, pour un temps que Dieu seul connaît, et surtout de passage sur cette terre, parce que nous appartenons à une patrie qui n'est pas de ce monde. Un jour, nous irons à la maison, là où Jésus lui-même nous prépare une place. Notre maître n'a pas un lieu où poser sa tête. Son royaume n'est pas de ce monde. Ce qui signifie que dans ce monde-ci, eh bien, nous pouvons perdre toutes nos sécurités demain. Toutes nos sécurités demain. Toutes, sauf une. Ce qui fait d'elle la seule qui compte vraiment, la sécurité que nous avons en Christ, bien sûr. Celle que nous avons en nous mettant à la suite de celui qui n'a pour sécurité que sa confiance dans le Père. Celui qui nous dit « Ne vous préoccupez pas du lendemain, car le lendemain se suffit à lui-même ». Et ça, c'est un engagement du cœur radical, et je vous le dis franchement, je crois que c'est un engagement du cœur difficile, tout particulièrement pour nous. Parce que Jésus l'a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le riche dont il parle, je crois que ça n'est pas celui que nous considérons comme riche. Parce que vous savez, quand on est locataire, on pense que le riche, c'est le propriétaire. Quand on a un appartement, on pense que le riche, c'est celui qui a une maison. Quand on a une maison, on pense que le riche, c'est celui qui a une piscine. Et quand on a une piscine, on pense que le riche, c'est Jeff Bezos, vous voyez. Mais en fait, dans le monde dans lequel nous vivons, nous, ici, en France, dans l'église dans laquelle nous sommes, ici, à Chambéry, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Donc, laissons-nous interpeller par Jésus, non seulement en prenant bien soin de ne pas nous appuyer sur nos sécurités matérielles, et ça, je le redis, je crois que c'est très difficile, parce qu'il se trouve qu'on en a. On en a des sécurités matérielles, mais surtout en prenant cette saine habitude de chercher notre sécurité en Christ. De bien se mettre dans la tête que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, nous sommes dans sa main, et notre vie ne se résume pas à ce que nous envoyons ici-bas. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre demeure est céleste. Celui qui croit en moi, dit Jésus, même s'il meurt, même s'il perd tout, il vivra. Voilà où se trouve notre vraie sécurité. Et la deuxième chose que dit Jésus dans ce texte paraît d'une certaine manière encore plus radicale. Un homme est là, l'un de ceux qui le suivent. Il vient de perdre son père et avant de poursuivre sa route, il demande une petite faveur à Jésus. Une petite faveur. Il lui demande à pouvoir aller enterrer son papa. Franchement, demandez-moi la même chose et je vous dirai, ben évidemment, ça coule de source. Évidemment, on va t'attendre. Tu vas enterrer ton père, on t'attend, on ira sur l'autre rive ensuite. Ou peut-être... Si vraiment j'en ai plein les bottes de la foule qui m'entoure, je vous dis, bon, on va traverser, tu nous rejoins, voilà, pas de problème. Et c'est là que vous voyez que je ne suis pas Jésus, si vous en doutiez. Le bon berger, lui, répond, laisse les morts ensevelir leurs morts, toi, suis-moi. Alors on a parfois édulcoré cette parole, parce que c'est dur quand même, c'est une parole dure. Donc certains disent qu'en fait, le père de cet homme, il n'est probablement pas encore mort. Il est en fin de vie, et puis du coup, ben en fait, c'est un processus au moins de plusieurs jours. Et c'est pour ça que Jésus n'accueille pas favorablement cette demande qui, au fond, paraît simple et légitime. Mais je crois que ce n'est pas nécessaire de spéculer comme ça. Je crois que ce texte, en fait, s'accorde très bien avec la radicalité de l'appel du Christ qu'on retrouve à bien des endroits dans les évangiles. Il suffit de penser à ce qui se passe à chaque fois que Jésus appelle quelqu'un à sa suite. En général, il laisse tout en plan. Il le suit, c'est ce qui s'est passé pour Le publicain, le collecteur d'impôts, toi, suis-moi, il laisse tout, il suit Jésus. C'est ce qui s'est passé pour ceux qui étaient en train de pécher. Il les appelle, il laisse les filets, il laisse leur père. Ils n'étaient pas tout seuls, il y avait leur père avec eux, il le laisse comme ça en plan. Et ils suivent Jésus. Parce que Jésus n'est pas un personnage comme un autre. Pour cet homme qui s'approche de lui, le train ne passera pas deux fois. Jésus est là, maintenant. Dieu s'est incarné sur la terre, la lumière est descendue dans les ténèbres, la vie s'est invitée dans l'expérience mortifère du monde empêtré dans le péché. C'est un fait historique, et ce fait historique, cet homme-là, il l'a devant les yeux, comme aucune génération avant lui, comme aucune génération après lui. Il est dans une situation radicale, avec la vie en personne d'un côté, et puis de l'autre côté, la mort. Et cette situation radicale exige de lui un engagement radical du côté de la vie qui se présente à lui en la personne de Jésus et qui lui ouvre la voie. Les situations radicales exigent des engagements radicaux. Il y a peu de temps, j'ai lu le témoignage d'une femme ukrainienne engagée dans le secours aux victimes, là-bas, en pleine guerre. Et le journaliste lui demandait comment, dans ces circonstances, elle gérait ses émotions. Et cette femme, elle a répondu « Écoutez, j'ai pas de nouvelles de mon père depuis plusieurs jours. Je sais pas où il est. Quand tout sera fini, je pleurerai. Mais là, je garde les émotions à distance et je soigne. » Et je trouve ça dur, c'est tellement dur. Et c'est la même radicalité qu'on trouve, je crois, dans ce « Suis-moi » de Jésus. Dans un moment historique, Jésus propose le chemin radical de la vie. Je ne sais pas si cette femme est chrétienne, mais la décision qu'elle a prise est de même nature. Au milieu du chaos, elle soigne. Elle n'a pas de temps pour autre chose. C'est ce qu'il faut faire. Elle choisit la vie. Alors, en quoi ça nous concerne? Eh bien, peut-être que la situation internationale vous plonge dans une certaine angoisse. Et je ne vais pas faire le super pasteur ici, montrer mes gros bras de chrétien très spirituel, affirmer dans sa foi que rien n'ébranle. Non, je suis moi-même plongé dans une certaine inquiétude. Je sens que la parenthèse enchantée peut se refermer et qu'il va peut-être falloir renouer avec une réalité qui n'était plus la nôtre depuis des décennies. Mais j'entends Jésus qui, en toutes circonstances, nous dit « Suis-moi ». Et laisse les morts enterrer les morts. Suis-moi résolument du côté de la vie. Ne te replie pas sur toi-même. Ne t'accroche pas à tes fausses sécurités. Ne te terre pas dans tes peurs. Ne te nourris pas de la mort qui s'étend autour de toi. Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne vit pas quand on est reclus, quand on est enfermé dans ses craintes. Et Jésus nous libère de ça. Jésus nous dit « Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Celui qui accepte que sa vie est dans les mains de Dieu, celui-là vit en homme libre, en femme libre. Celui-là ne vit plus reclus derrière ses fausses sécurités. Il trouve sa sécurité dans le Christ lui-même et il peut donc agir. Agir à la suite du Christ. » Alors, des moyens d'action, on en a entendu parler, on en entendra encore parler. Il y a la CFP qui s'occupe de l'accueil des Ukrainiens, qui a tout préparé. Et un jour, peut-être, des familles arriveront. Une famille est arrivée, elle est à Pontchara actuellement. D'autres arriveront, peut-être encore. Là, on a un moyen d'action. Il y a le Secours protestant, je crois que Sylvain nous partagera quelques mots de la mission qu'il a eue là-bas en Ukraine. Ce sont autant de lieux où on a parlé tout à l'heure de crier, voilà, crier notre amour, notre foi, ou témoigner de la grâce de Dieu. Et non seulement c'est bon pour les autres, on a parlé aussi de nos craintes, mais en fait c'est bon aussi pour nous, c'est bon aussi pour nous. Nous sommes l'Église, celle de la terre et lumière du monde. Et le Seigneur lui-même ouvre la voie devant nos pas. Et je vais conclure simplement en lisant le psaume 112. Alors, je n'avais pas prévu, mais tout à l'heure, Étienne a lu le 111, et puis du coup, sur ma lancée, j'ai poursuivi sur le 112. Et je voudrais vous le lire, je pense qu'il conclut bien cette prédication. Il dit ceci, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui révère l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. Sa postérité sera forte sur la terre et Dieu bénira les enfants du juste. L'abondance et la richesse régneront dans sa maison, il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour les hommes droits et compatissants, pour ceux qui font grâce, qui sont bons et justes. Il est bon que l'homme prête généreusement et qu'il gère ses affaires avec équité, car rien ne pourra jamais l'ébranler. On se souviendra pour toujours du juste. Il n'y a pas à craindre les bruits malveillants. Son cœur est tranquille. Il s'appuie sur l'Éternel. Ferme sur ses positions, il n'a point de crainte. À la fin, il peut regarder en face tous ses ennemis. On le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Honoré de tous, il peut relever la tête. Le méchant en est témoin. Il s'enrage et il s'aigrit. Il en grince de dépit et il est tout abattu. Oui, les désirs des méchants seront réduits à néant. Être à l'endroit où le Seigneur nous veut, nous affirme dans notre foi, apaise nos propres craintes, nous fait avoir un cœur tranquille, nous encourage à nous appuyer sur l'Éternel. Et plus ça tremble autour de nous, plus c'est vrai. Je vais prier. Seigneur, quand on fait tourner en boucle les chaînes d'information, les réseaux sociaux, quand on les fait passer devant nos yeux du matin jusqu'au soir, eh bien l'inquiétude s'installe parce que nous sommes abreuvés d'informations anxiogènes. Seigneur, nous voulons... En tout cas pour ceux d'entre nous qui sommes dans cette situation, peut-être d'angoisse, de crainte, nous voulons nous tourner vers ta parole de vie et de vérité, qui nous permet de voir les choses avec beaucoup plus de recul, qui nous permet de voir les choses comme toi tu les vois, et qui nous permet d'être à notre juste place dans le tumulte du monde. Seigneur, tu nous appelles à te servir dans toutes les circonstances. Dans les circonstances paisibles, tu nous appelles à te servir. Dans les circonstances troublées, tu nous appelles à te servir. Et Seigneur, je te rends grâce parce que bien des textes dans ta parole nous rappellent que c'est dans le service qui met en action notre foi, pour le dire comme ça, que nous trouvons aussi la paix que toi seul peux donner. Seigneur, je te prie de fortifier celles et ceux qui sont dans des circonstances compliquées où leurs vies sont en danger et où tu les appelles tout de même, malgré tout, là, à ne pas se terrer, mais à te servir là où ils sont. Ce sont des décisions difficiles, courageuses. Seigneur, ils prennent le parti de trouver leur sécurité en toi. Seigneur, je te prie de les bénir pour qu'ils puissent vivre ce qu'ils ont à vivre dans la paix que toi seul peux donner et qu'ils puissent effectivement être là où ils doivent être. Et je te prie aussi pour nous qui, pour l'instant, vivons en sécurité, Seigneur. Nous avons notre part à faire ici. Tu places des œuvres devant nos pas, Seigneur, juste devant notre nez. Elles sont là, présentées comme sur un plateau, Seigneur. Je te prie pour que nous soyons nous aussi à notre place. Aide-nous à voir exactement ce que tu attends de nous. Et tout particulièrement si nous sommes dans la crainte, Seigneur, aide-nous à faire ce pas, à sortir de nos peurs et à agir. Parce que dans l'action, Seigneur, tu vas nous bénir. Dans l'action, tu vas nous donner la paix. Dans l'action, tu vas nous permettre de connaître cette joie d'être là où toi tu nous appelles, là où nous devons être, et tu vas nous permettre de trouver la vraie sécurité, celle qui se trouve non pas dans nos maisons, dans nos biens matériels, dans nos comptes en banque, dans le fait de nous cacher, d'essayer de vivre un peu reclus au loin, mais celle qui se trouve en toi. Celle qui se trouve en toi, celle qu'on ne perdra pas, jamais, quelles que soient les circonstances. Seigneur, nous sommes faibles et simplement, on fait appel à toi. Je sais que tu vas agir. Amen.
Avant d'avoir le moment d'annonce, il est relativement